Comment ça va?
Salut, Marty.
Ça va bien, vous autres?
Ça va bien, ça va bien. Marty, je le disais un peu avant la pause, des fois, il y a une mauvaise compréhension du processus d'arbitrage. Et je pense que ça va faire du bien pour le commun des mortels de juste ramener les grandes bases, les grandes lignes de qu'est-ce que c'est le processus d'arbitrage. En quoi ça consiste exactement?
Ouais, ben, le processus d'arbitrage, là, pour tous ceux qui travaillent, ben, pour ceux qui ont des emplois, là, on entend souvent parler de processus d'arbitrage, même parfois dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, peu importe les conflits de travail. Mais c'est pas compliqué. Je vais prendre l'exemple de Jaden Strobel. C'est que le joueur demande un salaire. Donc, par exemple, disons 1,3 million de dollars. L'équipe, eux, pense qu'il ne vaut pas ça, donc on veut un autre montant. On n'est pas capable de s'entendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un troisième parti, on prend quelqu'un d'indépendant, donc un arbitre, qui lui va déterminer quelle est la vraie valeur du joueur. Est-ce que c'est 1,3 million dans l'exemple que je viens de donner, ou disons que l'équipe pense qu'il vaut 900 000. Est-ce que c'est 900 000 ou 1,3 million de dollars? Donc là, il y a une séance. On prend les arguments. Souvent, la majorité des arguments sont basés sur les statistiques. Et bien, par la suite, 48 heures plus tard, l'arbitre, lui, va aller décider qu'est-ce qui est le plus logique. Comment on détermine également comment tu es admissible? Souvent, ça dépend avec les années d'expérience. Dans le cas de Jaden Strobel, par exemple, lui, il a signé son premier contrat professionnel à 22 ans. Donc, lui, c'était après 2 ans. Donc, il vient de terminer sa deuxième année avec les Canadiens. Donc, c'est pourquoi il est admissible au processus d'arbitrage, alors que, je donne un exemple comme ça, Lane Hudson, supposons l'an prochain, supposons qu'il atteignait le statut de joueur autonome avec compensation, bien lui pourrait pas être admissible à l'arbitrage parce qu'il y aurait simplement 2 saisons là, dans les rangs professionnels.
Donc, au final, à part négocier un salaire qui est peut-être supérieur à ce que l'équipe veut t'offrir, y a-t-il un autre avantage à se lancer dans ce processus-là?
Ouais, bien, je pense que pour le joueur, le gros avantage, c'est un peu de confirmer que tu vas avoir ta place au camp d'entraînement. T'es pas obligé de négocier puis de penser que peut-être au mois de septembre, t'auras pas nécessairement de place. Je pense que pour le joueur, c'est surtout ça l'avantage, puis à quelque part pour l'équipe également. Là, évidemment, personnellement, puis honnêtement, là, les cas d'arbitrage, vous allez voir que, disons qu'à 95% du temps, ça se règle avant la séance, parce que, honnêtement, en tant qu'équipe, ou en tant que joueur même, t'as pas intérêt à te rendre là. Je viens de parler des statistiques. T'imagines-tu, t'es une équipe, tu veux tenter de t'entendre avec le joueur le moins possible, mais tu vas utiliser plein d'arguments pour le descendre. Tu vas dire, bon, ben, il est pas si bon que ça défensivement, physiquement, j'ai les statistiques pour prouver qu'il est pas si robuste que ça. Tu sais, imagines-tu l'orgueil du joueur, comment tu prends un coup? Donc, tu sais, très souvent, lorsque tu te rends dans les processus d'arbitrage, souvent, ça mène un peu de mauvaises relations par la suite entre l'équipe et le joueur. On est pratiquement toujours obligé de l'échanger par la suite parce qu'on n'est pas capable d'avoir une bonne relation. Mais je pense que c'est ça. La plupart des cas, ça serait quand même avant.
Y a-t-il pas une subtilité, Marty, où un joueur, au terme du processus d'arbitrage, peut devenir joueur autonome sans restriction?
Ouais, exactement. Ben, c'est pas compliqué là. Dans le fond, si justement l'équipe, par exemple, l'arbitre décide que le joueur a gain de cause, donc un montant peut-être un peu plus élevé, mais ça arrive parfois que l'équipe n'a tout simplement pas la place sous le plafond salarial, que c'est pas nécessairement logique, puis peut-être penser également que le joueur ne mérite carrément pas ça. Donc là, il y a un processus avec un certain minimum de salaire. Bien, si ça ne convient pas, l'équipe peut très bien dire « je ne donne pas le contrat ». Et là, par conséquent, le joueur en question devient joueur autonome. Dans le cas de Jaden Strobel, je pense que c'est pas...
Non, ça arrivera pas là.
Ouais. C'est ça, on se rendra pas là, puis c'est davantage dans des cas avec des salaires un peu plus grands. Je pense que vraiment dans le cas de Strobel, là, on attendra de voir les montants qui vont être dévoilés, là. Mais je pense qu'on risque de diriger davantage dans la fourchette de 1 million. Ça, c'est vraiment, je pense, vraiment pour s'assurer que Strobel soit au camp d'entraînement. Mais c'est vraiment dans les autres gros cas, quand t'as beaucoup de gros salaires, là, t'as eu des situations dans les dernières années où c'est pas arrivé très souvent, là.
As-tu un exemple?
C'est quand même arrivé que oui, j'ai quand même quelques exemples. Le plus célèbre, je te dirais, c'est en 2010. Lorsque les Blackhawks de Chicago ont gagné la Coupe Stanley, Antti Niemi, qui était le gardien de but, lui devenait joueur autonome avec compensation, a pris le processus d'arbitrage, a obtenu 2,75 millions de dollars, puis son équipe les Blackhawks ont refusé carrément, donc il est devenu joueur autonome. On s'entend, t'es le gardien de but qui vient de gagner la Coupe Stanley, ça fait quand même couler de l'encre. Niemi a quand même été un bon moment sans contrat, finalement, a poursuivi sa carrière du côté des Sharks de San Jose. Puis je pense qu'il y a eu deux autres cas également. Clark McArthur, cette année-là, qui a changé d'adresse. Là. Donc, ouais, ça, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Là.
Ouais, puis tu sais, évidemment, tout le monde pense au cas Piquet-Souban parce que c'est le cas le plus connu ici à Montréal. Ça avait tellement été médiatisé. Bon, finalement, on s'était entendu avant là, que l'arbitre rende sa décision, mais ça reste que ça avait fait les manchettes. Puis on l'a vu un peu hier sur les réseaux sociaux. Les gens n'aiment pas ça. Les gens ont l'impression d'être un peu trahis par leur joueur lorsque ouais. Le joueur ne veut pas pousser dans la même direction que l'équipe. Puis les gens étaient méchants sur Internet. Tu sais, sac ton camp, Struble, c'était pas content, puis t'es même pas si bon que ça. Mm. Il y a
une méconnaissance du processus, je pense, là-dedans. Puis il y a aussi le fait de Zo et Marty, que je pense que les gens se rappellent du processus Subban. De ces images où on se retrouvait en cours, t'as l'impression de te rendre au palais de justice.
Ouais, t'as l'impression d'en faire de quoi pas correct, exact.
Ouais, exact. On se souvient, là, puis ça avait été très médiatisé, les caméras de nos réseaux de télé étaient là pour filmer Piqué, puis Marc Bergevin, puis le Canadien. Finalement, ben, on avait amorcé la séance d'arbitrage, mais on s'était entendu avant. Pendant le processus.
Exact.
Mais avec le recul, ça l'a effrité la relation. Alors je pense que là-dedans, les gens se rappellent beaucoup de ce qui s'était passé avec Piqué.
Ouais, mais le cas Piqué-Souban, là, c'est un excellent exemple. Mais c'est ça, tu l'as bien mentionné. On a eu le processus d'arbitrage, on s'est rencontrés, on a dû faire face au fameux argument où, justement, Marc Bergevin et son état-major est arrivé, puis ça t'allait dire à Piqué-Souban, probablement plein d'arguments pour dire qu'il était pas si bon que ça. Et on l'a vu, bon. Là, finalement, après la séance, souvent, on a entendu que c'était Jeff Molson qui a sorti le chéquier, est allé donner un contrat de 8 ans à 9 millions de dollars par année. On se rappelle tous de ce salaire-là. Mais la vérité, c'est que les deux saisons suivantes, tu sais, la relation n'était vraiment pas la même. Clairement, tu pouvais voir qu'il y avait une relation qui n'était pas au beau fixe entre Marc Bergevin et Piqué Souban. Souviens-toi, dans ce contrat-là, il y avait une clause de non-échange qui tombait en vigueur en 2016. Ben, qu'est-ce qui est arrivé dans les jours précédents, le 1er juillet? On l'avait échangé contre Shea Weber. Puis honnêtement, tu sais, souvenez-vous, à l'époque, il y avait quand même déjà des rumeurs, là. Donc, tu sais, c'est souvent le processus d'arbitrage, là. Très souvent, lorsque tu te rends là, ça augure pas très bien pour ton avenir avec l'équipe.
Ouais, puis là, tu sais, on me le rappelle à juste titre sur la messagerie texte. Je mets pas tous les partisans du Canadien de Montréal dans le même panier,
non,
là. C'est pas parce qu'il y a des dizaines de personnes qui se sont prononcées en ce sens-là que ça représente tout le monde, là. D'ailleurs, c'était notre question du jour. Puis la dernière fois que j'ai consulté les résultats, c'était 80-20 qui disait qu'il était pas, ça dérangeait pas de voir Jalen Struble porter sa cause en arbitrage. Dans le cas de Struble, c'est lui, évidemment, qui a fait la demande. Mais ça peut être aussi l'inverse. Une équipe peut décider d'enclencher ce processus-là et de forcer le joueur à se soumettre au processus Marty.
Ouais, exactement. On l'a vu hier, justement. Les Sabres de Buffalo ont amené Bowen Byram en arbitrage. C'est l'équipe qui a décidé. Jack McBain du côté du Mammouth de l'Utah, c'est la même chose. Donc, cette décision a été prise hier. Pourquoi l'équipe amène un joueur immédiatement en arbitrage? Ben, un peu dans le même cas que pour un joueur. Évidemment, ça fait en sorte qu'il va quand même avoir un règlement. Tu vas quand même pouvoir avoir le joueur au camp d'entraînement. C'est une façon de t'assurer que tu t'assures d'avoir un contrat avec le joueur. Mais plus que ça, lorsque l'équipe décide, ben, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus donner d'offre hostile. Donc, dans le cas d'un Bowen Byram, qui est un défenseur qui pourrait peut-être être prisé par une équipe qui voudrait s'améliorer en défense, mais t'as même plus le droit de lui donner d'offres hostiles. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça te donne pas mal plus de jeu en tant qu'équipe pour te donner du temps pour régler quelque chose, puis évidemment d'avoir un Byram là, dans le cas des Sabres de Buffalo, par exemple, dans ta formation la saison prochaine.
Ouais, parce qu'on le sait que clairement, il était attrayant pour ça. T'as un autre exemple, et cette fois-ci, il concerne le mal-aimé de Montréal, Scott Gomez.
Ouais, ben encore une fois, pour dire à quel point ça peut effriter les relations lorsque tu te retrouves en arbitrage et tout ça. Scott Gomez, je rappelle, en 2006, lui jouait avec les Devils du New Jersey. Il s'est retrouvé en arbitrage, avait signé un contrat de 5,2 millions avec les Devils, s'est retrouvé en arbitrage. Puis encore une fois, on se rappelle, Scott Gomez, bon, je sais qu'à Montréal, on ne l'a pas aimé, là, mais c'est quand même quelqu'un qui a gagné une Coupe Stanley avec les Devils, c'est quand même quelqu'un qui avait une belle carrière à ce moment-là. Et là, ben, la relation s'est effritée. C'est simplement un an, se retrouve joueur autonome par la suite. Puis ça, c'est le risque également, parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en arbitrage, t'as simplement le choix de signer un an ou deux ans. Je prends l'exemple de Byron, supposons qu'il signe deux ans de contrat, ben ça l'amène à l'autonomie complète. C'est un autre jeu qui est un peu dangereux. Mais dans le cas de Gomez, donc, s'est retrouvé joueur autonome sans compensation. Il est arrivé en 2007. Puis là, évidemment, on dirait qu'avec la relation qui s'était effritée, il n'a tout simplement pas eu d'intérêt nécessairement à retourner avec les Devils. Et là, on connaît la petite histoire. Il s'est retrouvé avec les Rangers, a signé son fameux contrat de 7 ans pour, je l'arrondis, mais 7,4 millions de dollars. Et là, on sait ce qui est arrivé par la suite. Les Canadiens avec Akiri Gomez, pratiquement avec le contrat à 100%. Là, ça, on s'attend que c'était pas une grande décision. Mais c'est ça. Donc, tu sais... Tout ça avait découlé du fait que Gomez avait eu quelques problèmes en arbitrage également.
Ouais, ça, c'était les belles années du Canadien de Montréal. Là. Les bonnes décisions, une après l'autre. Ouais. C'est le centenaire. Faut gagner. Ouf. Gomez, Pachek, Gianta Camilleri.
Ouais, mais malgré tout, on a quand même eu des... Pas avec Gomez, là, mais dans le cas de Gianta Camilleri, ils nous ont donné quand même une coupe de bonne saison et de bons moments pareils.
Ah oh, ouais, j'ai rien contre ça. C'est juste que mon point, c'est de dire, sous prétexte que c'est le centenaire de l'équipe pour performer, quelle idée complètement stupide. Tu sais, je veux dire, tu bâtis pas en fonction de ça. Tu bâtis... On a scrappé Price, Big Time, Markov, Pacioretty, Subban. On avait un beau noyau. On a précipité les affaires. On est allé dans une direction. Puis finalement, le Canadien a été... À place d'avoir une bonne équipe là, dans les années 2010, là, on a été une équipe de milieu de peloton qui a absolument rien à compter.
C'était pas le centenaire des Bruins de Boston cette année? Je pense que oui,
mais... si c'était pas cette année, c'était l'année précédente. Mais oui, ça vient de faire 100 ans.
En tout cas, je pense que c'était... OK, on va oublier mon point.
Parce que c'était un an ou deux.
OK, ouais.
Okay, c'est ça, c'est là 2 ans. OK, parce que j'allais dire, cette année, ben, finalement, ça rappelle un peu ce que le Canadien avait vécu à son centenaire. Ça avait été une année de misère. Mais exact. Les Bruins...
Mais le Canadien avait appuyé sur l'accélérateur cette année-là.
Pour essayer d'être bon.
Exact.
Mais au-delà de ça, les Canadiens, là, à l'époque, là, la grosse erreur, c'est qu'il y avait un paquet de joueurs qui devenaient joueurs autonomes sans compensation. Saku Koivu, Alex Kovalev, Roman Amerlik, des gars comme ça. Puis comme on voulait gagner parce que c'était le centenaire, on a gardé tout le monde. T'sais, t'imagines-tu en 2025, là, t'as 5 ou 6 joueurs qui deviennent joueurs autonomes sans compensation. Puis t'échanges personne, tout le monde part pour rien, là. C'est ça qui a fait mal aussi. Donc, t'es allé ajouter des Camilleri, des Gomez, des Allgill et compagnie, mais en retour, tu sais, les actifs que t'aurais pu amasser pour des joueurs qui ne seraient pas demeurés à Montréal, c'est là que ça a fait mal. On a rien eu, on a laissé partir tout le monde. Ben on est obligé de redécoller le processus. C'est là que ça a été désastreux.
Tu sais, quand je parle de pas de vision, là, tu donnes un premier choix pour Alex Tanguay pour finalement le laisser partir à l'autonomie l'année suivante. Alors qu'il a très bien fait ici, là. Ça démontre là, que dans ce temps-là, il n'y avait pas de plan à long terme et on faisait un peu n'importe quoi. Hey, merci, Marty, de ton temps ce matin. On se reparle demain, même heure, même poste.
Ouais, sans problème, les gars. Toujours un grand plaisir.
Salut, Marty.